Comment pratiquer la méditation vipassana? Une existence humaine est extrêmement courte comparée aux existences célestes des devas et des brahmas. 100 ans dans le plan humain équivaut à 1 heure et demie dans le plan céleste du Paranimitta Vasavati. Bien que très courte, la vie humaine est celle qui offre les meilleures opportunités pour accumuler les actions méritoires indispensables pour l'atteinte de Nibbana. Lorsque l'on a obtenu une vie humaine, qui est difficile à obtenir, il est important de faire bon usage de cette précieuse opportunité. La meilleure façon de le faire, c'est de pratiquer la méditation vipassana. Par le simple fait de pratiquer vipassana, nous allons nous débarrasser des kilesas, les impuretés, comme lobha, le désir, dosa, la colère, et moha, l'ignorance, qui nous ont entraînés dans les plans misérables, les 4 apayabhumi, où la souffrance domine. D'autre part, nous réaliserons la perfection de samadhi, la concentration, et de jnana, la sagesse, et pourrons dès lors expérimenter nibbana, la richesse suprême et la plus noble. Voilà pourquoi, lorsque l'on se trouve dans le plan humain et que l'on veut en tirer un maximum de profit, il faut pratiquer la méditation vipassana. Pratiquer la méditation vipassana, c'est noter les rupadhamma, les composés matériels, et les namadhamma, les facteurs mentaux, qui se manifestent dans les khandhas, les agrégats, afin de réaliser leur véritable nature, le changement. Il y a 4 dhammas qui devront être pratiqués par le méditant s'il désire réaliser la nature changeante des rupadhamma et des namadhamma. Kayanupassana satipatthana, la contemplation des phénomènes physiques. Vedananupassana satipatthana, la contemplation des 3 types de sensations, Vedana. Chittanupassana satipatthana, la contemplation des processus mentaux. Dhammanupassana satipatthana, la contemplation des phénomènes qui n'appartiennent à aucune des 3 catégories précédentes et regroupés sous l'appellation objets mentaux. Notez Kaya, c'est noter pour prendre conscience de tous les comportements du corps et d'en réaliser la véritable nature. La marche, la posture debout, la posture assise, le mouvement qui consiste à passer à la posture debout, le mouvement qui consiste à se pencher ou à étendre les bras ou les jambes. Au début, il n'est pas possible de noter tous les comportements du corps, car l'esprit est agité. Le méditant commence donc par pratiquer en posture assise pour calmer son esprit. Lorsqu'il aura réalisé la tranquillité mentale par la méditation en posture assise, il sera en mesure de noter tous les comportements du corps à chaque instant. Pour la méditation assise, il est conseillé de se trouver une posture confortable dans laquelle on puisse tenir longtemps. Soit en tailleur, jambes croisées, soit sur les genoux, jambes repliées. La colonne vertébrale doit être maintenue bien droite, de même que la tête. On porte l'attention sur l'abdomen, puis sur le gonflement progressif du ventre au moment où l'air est inspiré. Il faut abandonner, dans la mesure du possible, l'apparence extérieure de l'abdomen et réaliser à l'intérieur de l'abdomen la sensation croissante de rigidité et de consistance qui est. Il faut noter mentalement lever lorsque l'air est inspiré, Lorsque l'air est expulsé, c'est l'abaissement progressif de l'abdomen qu'il faut observer en s'efforçant de réaliser la sensation de relâchement progressif et noter BC. En ce qui concerne la marche, il y a trois façons de noter. Faire une note à chaque pas, faire deux notes à chaque pas ou bien faire trois notes à chaque pas. Une note à chaque pas. L'esprit se concentre sur le mouvement qu'effectue le pied gauche en notant gauche, puis sur le mouvement qu'effectue le pied droit en notant droit. Il ne faut pas ralentir l'allure, elle doit être naturelle, ni trop rapide, ni trop lente. L'esprit qui note doit essayer de ne pas s'attacher à la forme extérieure, à l'apparence physique de la jambe. C'est le mouvement, la sensation de progression vers l'avant qui doit être perçue en maintenant l'observation pendant toute la durée du processus. Deux notes à chaque pas. L'esprit se concentre sur les mouvements d'élévation et d'abaissement du pied. Ces deux mouvements doivent être effectués de façon très composée. Lorsqu'il observe son pied qui s'élève, le méditant doit s'efforcer de se concentrer sur le mouvement d'élévation qu'il observe très attentivement et pendant toute la durée du processus. Il doit voir les étapes successives de ce mouvement et ressentir les sensations qui l'accompagnent. Lorsque son pied s'abaisse, il doit observer le mouvement d'abaissement du pied du début à la fin et doit ressentir les sensations associées à ce mouvement vers le bas. Trois notes à chaque pas. L'esprit se focalise sur trois mouvements, l'élévation, l'avancement et l'abaissement du pied. Lorsqu'il observe son pied qui s'élève, le méditant doit essayer de maintenir son attention de façon très précise pendant toute la durée du processus et voir le mouvement d'élévation se produire étape par étape. Lorsque son pied s'avance, le méditant observe le début du mouvement d'avancement et maintient son attention jusqu'à la fin. Il observe le plus attentivement possible la succession des petits mouvements vers l'avant et les sensations. Lorsque son pied s'abaisse et presse le sol, le méditant observe attentivement le processus d'abaissement du début à la fin. Il observe avec un maximum de précision les étapes successives d'abaissement de son pied et les sensations. En ce qui concerne les activités quotidiennes, lorsqu'il désire s'asseoir, le méditant doit noter le désir de s'asseoir qui est présent dans son esprit et passe ensuite à la posture assise très lentement. Il essaye de ne pas se focaliser sur la forme extérieure de son corps, mais de se concentrer le plus attentivement possible sur le mouvement graduel du corps qui s'abaisse. Il doit maintenir son attention du début à la fin du processus et essayer de ressentir la sensation de lourdeur qui s'intensifie au fur et à mesure que son corps descend. Lorsqu'il désire se lever, le méditant doit d'abord noter le désir de se lever et ensuite seulement il passe à la station debout très lentement. Il essaye de se focaliser sur le mouvement graduel de redressement tel qu'il se produit étape par étape. Il doit maintenir son attention très vigilante pendant toute la durée du processus, du début à la fin, et ressentir la sensation d'allègement qui accompagne ce mouvement vers le haut. Lorsqu'il mange, le méditant doit noter sans interruption de la façon suivante. Lorsqu'il regarde la nourriture, il note voir. Lorsque sa fourchette touche la nourriture, il note toucher. Lorsqu'il porte la nourriture à la bouche, il note porter. Lorsqu'il incline la tête pour prendre la nourriture, il note incliner. Lorsqu'il ouvre la bouche, il note ouvrir. Lorsqu'il dépose la nourriture dans la bouche, il note déposer. Lorsqu'il redresse la tête, il note redresser. Lorsqu'il mâche les aliments, il note mâcher. Lorsqu'il identifie le goût, il note goûter. Lorsqu'il avale, il note avaler. Il n'est pas aisé de noter tous ces détails au début, mais à force d'entraînement, le méditant sera en mesure de tout noter. En ce qui concerne les processus mentaux, lorsqu'une pensée surgit, le méditant doit en prendre conscience et noter pensée, pensée. Lorsque sa concentration et sa sagesse seront devenues fortes et qu'il aura atteint le stade de Bhangajñāna, il lui suffira de noter une seule fois pour que la pensée disparaisse et cesse d'exister. Voyant ainsi la rapide disparition des pensées, le méditant réalise que ces processus mentaux ne sont pas permanents, qu'ils sont anicca. Ces disparitions se succèdent si rapidement qu'elles sont ressenties comme une espèce de torture. C'est dukkha, la souffrance. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Les phénomènes n'en finissent pas de périr et la torture est inévitable. C'est anatta, la nature incontrôlable. Le méditant a très clairement vu les trois caractéristiques de l'existence. Anicca, dukkha, anatta. Lorsqu'un objet visible se présente, le méditant doit d'abord noter désir de voir. Ses paupières supérieures vont alors se lever. Les paupières inférieures ne bougent pas. Les muscles se contractent pour permettre la focalisation. Tout cela doit être observé. Le méditant note « regarder, regarder ». Et à l'instant précis où il voit l'objet, il note « voir, voir ». S'il réussit à noter de cette façon, il comprendra la nature du phénomène. Lorsque sa concentration et sa sagesse seront devenues puissantes, il lui suffira de noter « voir » pour réaliser instantanément la disparition furtive et répétée et du phénomène physique et de la conscience visuelle. Il en conclura qu'il s'agit de anicca, la caractéristique d'impermanence. Ces disparitions se produisent à chaque instant et sont un véritable calvaire pour les yeux. Le méditant comprend dukkha, la caractéristique de souffrance. Personne ne peut arrêter ces rapides cessations. Elles se produisent d'elles-mêmes et entraînent inévitablement la souffrance. Ces choses sont incontrôlables, elles sont anatta. Voilà comment le méditant réalise les trois caractéristiques de l'existence. Le sotapanna qui a réalisé Nibbana n'aura aucune crainte au moment de la mort à propos d'une renaissance éventuelle dans les enfers, dans le monde animal, dans le monde des pétas ou celui des asuras. La ronde des existences ne sera plus une source d'inquiétude pour lui. Il ne reprendra naissance que dans des plans meilleurs que celui qu'il connaît actuellement. Il se peut même qu'il oublie la méditation vipassana tant il est heureux. Il ne pourra cependant oublier que pendant 7 vies au maximum. Au cours de la septième et dernière existence, il sera plein de regrets, se remettra à pratiquer Vipassana, deviendra un arahante et entrera au Nibbana. Voilà pourquoi, lorsque l'on a obtenu la chose la plus difficile à obtenir, une existence dans le plan humain, il faut faire le meilleur usage de son précieux temps et pratiquer la méditation Vipassana.